Radio Canal Sud, le magazine toujours en direct. Et là, j'espère que nous sommes bien au téléphone avec Jean-Marc Servelle. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour à vous. Vous m'entendez bien, Jean-Marc ?
Oui, oui.
Parfait. Alors, Jean-Marc Servelle, vous faites partie des CGT, donc Finances Publiques 31. C'est comme ça qu'on vous dit ? D'accord.
C'est ça, ouais.
Et je disais, une fois n'est pas coutume sur cette antenne, on est ravis d'avoir au téléphone un contrôleur principal des impôts.
Ouais, j'espère que oui, ça pose de problème à personne.
Eh ben écoutez, vous savez bien que dès qu'on est contrôleur des impôts, on est plutôt mal vu, enfin vous-même dans votre vie. Comment on vous reçoit généralement dans votre entourage, comment ça se passe pour vous en général quand vous dites « je suis contrôleur principal des impôts » ?
Ouais, ça fait toujours, oui, un peu fantasmer le contrôle fiscal, mais en fait, on exerce des tas de métiers différents. Voilà, il faut pas avoir que le côté répressif. Et c'est même, moi en tant que salarié et en tant que militant CGT, on met en avant ce qu'apporte l'impôt, quoi.
Ce dont on va parler avec vous, on va aussi parler, ça c'est très bien, vous allez nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est votre travail aussi et pourquoi vous luttez aujourd'hui. On doit quand même noter que vous êtes actuellement, avec beaucoup d'autres de vos collègues, en grève et en occupation des sites. Ça a commencé la semaine dernière et moi je tiens surtout donc à noter une chose extraordinaire à mon sens, hein, je crois que depuis avant 95, est-ce que ça s'est déjà fait entre-temps, de voir une intersyndicale qui se met en place, où vous êtes donc les militants de Sud, les militants de CGT, de FO et de CFDT réunis. C'est quelque chose, ça, dites donc.
Alors, effectivement, localement, ça n'a pas eu lieu depuis un moment. Bon, on a reconstitué cette intersyndicale très récemment, vendredi dernier. Mais pour une bonne et simple raison, c'est que l'ensemble des organisations syndicales et les personnels voient bien que l'avenir de notre direction générale est très sombre et à très court terme. Donc ça aide aussi à se ressouder dans les moments où on sent que tout va à volo.
Tout va à volo. Alors avant, donc, on va parler donc avec vous, donc vous allez nous détailler un petit peu la lutte qui se met en place depuis la semaine dernière. Également, donc on va parler de les risques qu'il y a effectivement, notamment cette risque de disparition d'une grande partie de vos services. Mais d'abord, est-ce qu'on peut présenter aux auditrices et auditeurs justement l'impôt et votre travail, à quoi ça sert? Quelle est la différence entre les collectes qui sont faites auprès des particuliers et des entreprises et celles qui sont faites auprès des collectivités locales? Est-ce que vous voulez nous faire un mini-cours, s'il vous plaît,
oui,
Jean-Marc?
Alors je vais faire ça assez brièvement, oui. Donc les deux axes principaux de nos métiers, ce sont d'une part la fiscalité, alors que ça soit celle des particuliers et celle des entreprises, et également la partie que les gens de coutume connaissent moins, c'est la gestion des collectivités locales. C'est-à-dire essentiellement donc la tenue des budgets des communes, départements, régions, établissements publics qui sont gérés par donc ce qu'on appelait avant le trésor public et maintenant c'est l'administration regroupée des finances publiques depuis 2008. Et donc la partie fiscale, évidemment, le calcul et le recouvrement de tous les impôts sur le revenu, la taxe d'habitation et au niveau des sociétés, l'impôt société, l'imposition forfaitaire annuelle, la cotisation foncière des entreprises.
Alors, j'ai entendu que ce que vous disiez depuis 2008, déjà, il y a déjà eu, on va dire, un ratiboisement des services. Hein, c'est bien ça?
Disons, un regroupement des deux grosses directions générales, donc qui était la direction générale de la comptabilité publique qui s'occupait des collectivités, et la direction générale des impôts qui s'occupait des recettes fiscales, donc entreprises et particuliers. Donc, et déjà, ça a donné lieu, effectivement, à une grosse saignée au niveau du nombre d'agents qui avait commencé avant, mais qui a continué assez lourdement depuis 2008.
D'accord. Alors, donc, tout cet argent est collecté par les divers services dont vous faites partie. Et ça sert à quoi, hein? Je vais faire ma naïve. Et il va où, cet argent? Et comment est-ce qu'il est redistribué ensuite?
Alors voilà, c'est un des gros problèmes de la fiscalité qui a été au centre des revendications des gens qui sont en manifestation depuis la moitié du mois de novembre, donc sous l'appellation Gilets jaunes. Et c'est vrai que ce débat sur la fiscalité est primordial, puisque dans un État, la collecte de l'impôt va générer les choix qui sont faits derrière sur la redistribution. Donc il y a des impôts qui sont justes, c'est-à-dire essentiellement l'impôt sur le revenu qui comporte des tranches et qui en comporte d'ailleurs de moins en moins, ce qui fait qu'il est de moins en moins juste. Il y avait à une époque 14 tranches d'impôt sur le revenu, on est pour le moment à 5, donc il est beaucoup moins proportionnel qu'il était à une époque. Et après, il y a des impôts que nous, on considère comme injustes, ce sont les impôts comme la TVA ou une taxe comme la contribution sociale généralisée, qui sont forfaitaires et qui touchent la TVA. Si quelqu'un achète un produit qu'il gagne 800 euros ou 10 000, il paiera le même prix de TVA sur ce produit, donc c'est profondément injuste.
Donc la TVA, on rappelle, la taxe sur la valeur ajoutée, qui est donc tantôt elle est de 5,5 ou de 20%, c'est ça hein?
Voilà, tout à fait. Ouais.
Alors 5,5, ce sont pour les produits de première nécessité ou qualifiés comme tels par qui? Par le gouvernement, finalement.
Ouais.
Hein? Mmh. Ah, d'accord. Et ensuite, le 20%, ça va être 20% sur l'alcool, les cigarettes, mais également sur l'essence.
Voilà. Voilà. Et effectivement, ça pèse, y compris sur l'EDF, sur le gaz... Et donc, quand on regarde sa facture de TVA, enfin, c'est un exemple qu'on donne assez régulièrement à la CGT Finances Publiques. Un couple avec deux enfants dont les deux parents gagneraient 1800 euros va payer 724 euros d'impôt sur le revenu dans l'année et va payer par contre 3950 euros de TVA.
D'accord.
Donc, les contribuables s'offusquent souvent du niveau qu'ils payent en impôt sur le revenu. Mais au final, de manière indolore, entre guillemets, toute l'année, ils s'acquittent de près de 4000 euros avec ce type de revenus qui ne sont pas des revenus monstrueux non plus.
C'est ça, c'est-à-dire, puis la TVA, vous dites bien qu'elle est injuste, c'est-à-dire que donc ce soit, je sais pas, donc un smicard qui va payer sa TVA de tant pour cent sur n'importe quel produit paiera exactement la même quantité je sais pas, moi,
Monsieur Bernard Arnault, par exemple.
Monsieur Bernard Arnault, voilà, exactement.
Pour prendre un exemple connu.
Tout à fait. Et lui, ça lui fera ni au niveau pourcentage des revenus de l'un et de l'autre, comme vous dites, eh bien, sur le cumul, c'est d'une injustice totale, la TVA.
Ouais, complètement.
Et la CSG, de même.
Voilà, tout à fait. Et la CSG, bah, elle est passée d'un 0,5% à sa création, à un chiffre bien plus conséquent maintenant. Et bah, les retraités en ont fait la mère constatation. Et c'est aussi, voilà, une revendication qui surgit dans les ronds-points ces dernières semaines. Ouais.
Et cette TVA cumulée maintenant avec la CSG, elle représente combien des revenus de l'État? Parce que finalement, on rappelle, hein, l'État, ses revenus, c'est tout ça. C'est les impôts de toutes les sortes, en fait. Hein, c'est ça.
Voilà, alors j'ai pas le chiffre complètement pour la CSG, parce que c'est pas nous qui la recouvrons, donc c'est leur SAF. Uh-huh. La TVA représente grosso modo 150 milliards d'euros par an. Alors que l'impôt sur le revenu en représente un peu moins de la moitié.
Donc la TVA représente en fait plus de la moitié des ressources de l'État.
Oui, oui, c'est une part très très large des ressources de l'État. Le budget de l'État, de mémoire, il est autour de 303 milliards pour 2018. Mmh. Enfin, les recettes fiscales de l'État, ouais, 303 milliards de mémoire.
Et Célia qui vous interroge maintenant, Jean-Marc.
Oui. Est-ce que vous vous unissez contre les usages de cet argent d'État, c'est-à-dire là où il peut aller?
La redistribution, après, c'est une affaire politique. C'est le gouvernement en place qui fait le choix de redistribuer de telle ou telle manière. Donc, nous, en tant que syndicat, on n'a pas ce pouvoir-là. Hein. Après, c'est le boulot des partis politiques de revendiquer dans ce domaine-là. Effectivement, la redistribution, elle peut faire l'objet d'un vaste débat. Nous, ce qu'on revendique surtout, c'est que depuis plusieurs années, au niveau de l'État français, il n'est question que de réduction des dépenses. On ne peut pas ouvrir un média, un journal, une chaîne de télé en disant « on dépense trop, la dette publique, l'Union européenne rappelle chaque année aux États qu'il faut qu'ils restent dans des normes budgétaires très précises. » Et on ne parle jamais des recettes publiques. Il y a des centaines et des milliers de milliards d'euros qui partent dans les paradis fiscaux.
Exact.
Alors ça, c'est pas uniquement les syndicats qui le disent. La Commission européenne, en 2012, a sorti un rapport qui estimait à 1000 milliards d'euros la fraude et l'évasion fiscale au sein de l'Union européenne. La commission sénatoriale qui s'est réunie en 2016 en France a établi à 85 milliards ce chiffre pour l'État français. Donc tout cet argent qui part, c'est de chaque année, c'est de l'argent qui va pas au budget de l'État. Donc grosso modo, la dette l'évasion fiscale et la fraude fiscale annuelle, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle la dette publique française annuelle.
La fraude fiscale, redites-le s'il vous plaît.
La commission sénatoriale qui s'est réunie en 2016 évalue à 85 milliards la fraude et l'évasion fiscale en France. Donc, grosso modo, c'est l'équivalent de ce qu'on nous donne comme déficit budgétaire annuel. Donc, toutes ces sommes qui manquent au budget de l'État, elles pourraient être attribuées à faire des constructions de logements sociaux, des hôpitaux, des écoles. Et tout ça, ça manque au budget de l'État et on n'en parle jamais.
Donc, votre première revendication, c'est que la lumière soit faite sur ça.
Ben voilà, il y a actuellement des prémices à cette fraude sur les GAFAM, les gros Google, Amazon, Facebook. Il y a des choses qui sont en train d'être faites pour savoir si on arrive à taxer au niveau de l'Union européenne le fait qu'ils domicilient leurs bénéfices en Irlande ou dans d'autres paradis fiscaux. Mmh. Mais c'est des balbutiements. Bon, je dirais que ça va dans le bon sens, mais on est loin du compte.
On est loin des comptes aussi, des bons comptes aussi. D'ailleurs aussi. Et puis sans aller chercher les GAFA, que vous citiez tout à l'heure Bernard Arnault comme d'autres qui se domicilient, tantôt ils sont bien contents d'être en France et puis tantôt tiens c'est pratique de sauter une frontière ou deux et de faire en sorte à payer beaucoup beaucoup moins d'impôts. En clair, cette fraude, disons le mot, c'est du vol.
Bah, c'est un vol de l'État. Alors bon, certains grands patrons disent c'est de l'optimisation fiscale, et sur certains aspects ça n'est pas faux, puisque effectivement les lois françaises et européennes permettent un certain nombre de montages financiers. Donc déjà il faudrait qu'il y ait une volonté politique pour changer la donne à ce niveau-là, c'est-à-dire que on change les lois fiscales et qu'on permette plus ce genre de choses. J'ai visionné il y a pas très longtemps un reportage il y a 4 ou 5 ans sur un journal, je crois que c'est un journaliste de la Tribune qui avait fait ça, dans l'état du Delaware aux États-Unis, qui est un état réputé pour ses facilités fiscales, il y avait un immeuble dans lequel il y avait 235 000 entreprises domiciliées.
235 000, ah,
voilà.
Pas mal.
Donc en boutade, il était allé voir le conseil d'initiative et avait demandé « Est-ce que vous pourriez me dire à quelle adresse se situe le plus grand immeuble du monde ?» Il avait dit, mais c'est pas chez nous, à New York peut-être, mais pas chez nous. Il a dit, si, il y a un immeuble, là, il y a 235 000 entreprises qui sont installées. Donc, et il a fini par aller à l'adresse. Il y avait un immeuble de 2 étages avec un vieil ordinateur et un canapé éventré.
Extraordinaire.
Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne.
C'est comme ça que ça fonctionne, effectivement. Et pendant ce temps-là, donc, vous le dites, donc, la TVA, c'est l'impôt quand même, donc, le plus important des revenus de l'État, impôt injuste s'il en est, où les pauvres sont toujours énormément plus taxés que les riches. Et l'ISF, c'est impôt solidarité sur la fortune ou impôt sur la fortune, comment on dit?
Alors, impôt de solidarité sur la fortune, donc, qui a été supprimé.
Oui.
Et donc, qui a été remplacé par l'impôt sur la fortune immobilière. Donc, j'ai pas les chiffres en mémoire, mais ça a fait effectivement gagner un certain nombre de millions d'euros à des gens qui n'en avaient pas peut-être le plus besoin dans notre pays. En tout cas, ça a été bénéfique, voilà, à la partie la plus aisée de la population. Et donc, les gens qui avaient des grandes fortunes sont plus taxés uniquement que sur leur immobilier. Donc ça, c'est profondément injuste. Et effectivement, c'est un des axes de revendication des Gilets jaunes. Et même si c'est pas l'essentiel, parce que il y a des milliards à aller chercher par ailleurs, ça fait partie aussi symboliquement de quelque chose de fort qu'on ait fait permis de gagner à des gens qui n'avaient pas forcément besoin des sommes considérables, quoi.
Absolument. Donc c'est encore une autre forme effectivement de fraude et de corruption. Donc on le rappelle. Et puis on va revenir maintenant donc un focus un peu plus local. Là depuis la semaine dernière, donc c'est depuis vendredi, c'est mis en place, on le rappelle, c'est intersyndical Sud CGT FO CFDT, donc des finances public 31, et vous êtes particulièrement menacé, c'est notamment à peu près 40 000 emplois qui sont menacés. Si vous pouvez nous dire un petit peu justement qu'est-ce que veut la direction là des finances publiques et comment elle vous attaque, s'il vous plaît.
Alors on a un certain nombre de missions, voilà, qui sont en train d'être supprimées, certaines privatisées, Bon, le recouvrement de l'impôt sur le revenu avec le prélèvement à la source, bah, fait l'objet d'une privatisation, puisque depuis le 1er janvier, ce sont les employeurs qui sont chargés de son recouvrement, donc de sa collecte.
Alors, quand je vous arrête tout de suite, quand on dit que ce sont les employeurs qui sont chargés de sa collecte, d'après vous, bonne chose, pas bonne chose, est-ce qu'on peut leur faire confiance sur une transparence de cette collecte ?
Alors, les employeurs collectent déjà un certain nombre de taxes, et comme la CSG par exemple, et on voit bien que toutes ne le reversent pas. Auprès des entreprises, nous récupérons donc la TVA. On voit bien que les taux de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée sont bien moindres que ceux de l'impôt sur le revenu tels qu'ils étaient jusqu'à maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait en gros 65% de contribuables qui étaient mensualisés pour l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire qu'on les prélevait, c'était un choix personnel des usagers, sur leur compte bancaire. Et le taux de recouvrement de l'impôt sur le revenu était au-delà de 99%, donc il rentrait très facilement dans les caisses de l'État.
Bah, c'est quand même très
là,
fort,
on fait le choix maintenant de passer à un système beaucoup plus complexe, qui met en jeu, nous, l'administration fiscale, l'employeur et l'usager, alors qu'avant il n'y avait que deux interlocuteurs, et on s'est très bien, et le Sénat l'avait dit dans son rapport au moment où il y a eu une étude sur le prélèvement à la source, que les recettes seront moindres.
Oui.
Donc à une époque où on cherche et où on essaye de réduire la dépense, on sait pertinemment qu'on va se passer des recettes, notamment des entreprises qui vont fendre les plans, qui auront collecté l'impôt et qui ne le reverseront pas. Les entreprises bon, qui font de la fraude, c'est pas la majorité des entreprises, faut pas raconter d'histoire, mais ça existe aussi.
Oui.
Donc il y a un certain nombre de sommes collectées qui n'iront jamais dans les caisses de l'État. Et on complexifie énormément un système avec en plus une formation des collègues pour ce nouveau métier qui a été vraiment faite à minima.
Oui. Donc déjà nouveau métier comme vous dites, mais également l'idée c'est de finalement de ce qui était fait par le service public de le transférer à des entités privées.
Voilà, c'est une privatisation de l'action de recouvrement qui n'apporte rien dans l'immédiat. À la CGT, on a une vision à plus ou moins long terme.
Oui.
C'est que l'État veut, en fait, par ce biais, fusionner un beau jour l'impôt sur le revenu et la CSG pour faire un même base sur les cotisations qui reviennent normalement à la Sécurité sociale, de manière à les étatiser et, disons, avoir la main sur le financement de la Sécurité sociale, ce qui lui permettrait, a posteriori, de faire rentrer les assurances privées sur ce marché juteux.
Donc très clairement, c'est encore une fois, on le voit venir d'une manière rampante, c'est une privatisation des biens publics.
Voilà, tout à fait. Ouais.
Donc c'est-à-dire, il y a et donc tout ce système français qui reste encore l'admiration, notamment vous le dites, la sécurité sociale, l'admiration et ce que voudrait énormément de peuples à travers la planète. Hein. Donc privatisation, on le voit depuis également l'année dernière des études, privatisation de privatisation de SNCF, privatisation du réseau autoroutier puisqu'on rappelle que c'est le contribuable français qui a payé les réseaux. Donc des autoroutes. Hein.
Tout à fait, et elles sont quasiment arrivées au remboursement des investissements qui avaient été faits. Maintenant, ça va être du bénéfice qui aurait pu être un bénéfice pour l'État, quoi.
Alors, à savoir que tout ceci, c'est ce rouleau compresseur d'un capitalisme qui ne cache plus son nom, qui est mené par nos gouvernants, comme on l'entend nous ici dans un petit jingle qu'on a. Donc, des gens ont dit, ce sont des gouvernants qui votent contre le peuple, qui ont été élus par le peuple, mais qui votent contre le peuple. Donc, en ce qui vous concerne, vous, donc le service des finances publiques 31, là où vous êtes menacé aussi, c'est notamment, vous dites, la mort de notre administration. Ce sont des chiffres assez effrayants. Si vous pouvez me redire combien vous êtes aujourd'hui donc de personnes à travailler et combien de postes sont en menacés.
Alors, nous sommes actuellement un peu plus de 103 000 agents. Il y a une vingtaine d'années, on était environ 180 000, donc ça fait déjà une grande saignée.
Oui, oui, oui.
Et le gouvernement actuel, donc dans son plan d'action, Action publique 2022, nous a grosso modo, le chiffre qui circule à Bercy, c'est dans les 4 ans qui viennent, environ 4-5 000 emplois demain. Donc on aura en gros 20 000 emplois demain de moins d'ici la fin du quinquennat. Et toutes les réformes qui sont en train de se faire nous font craindre 20 000 de plus dans les années après, quoi. Donc on peut arriver à une administration, je dirais, un petit peu à l'allemande, avec un socle minimum de fonctionnaires aux finances publiques et tout le reste étant privatisé, comme c'est le cas donc du plan cadastral qui va être donné à l'Institut Géographique National, les notaires qui détiennent déjà possibilité de consultation du fichier foncier, donc de la publicité foncière. Il y a des tas de missions. L'encaissement, on aura très bientôt, à 2 ans à peu près, plus la possibilité d'encaisser du numéraire dans nos services.
Des sous, donc, enfin des espèces.
Voilà, des espèces. Donc la Poste, les buralistes sont sur le coup, sur le marché public qui va leur être soumis, pour nous remplacer dans ces actes de paiement en espèces. Donc on ira peut-être régler son amende ou sa taxe d'habitation, si elle existe encore, auprès de son buraliste ou de la Poste ou de l'entreprise qui aura gagné le marché.
Et dites-moi, Jean-Marc Sauvel, est-ce que vous pensez qu'une nationalisation, un jour, peut-être, avec un autre gouvernement bien entendu, serait bénéfique ou souhaitable? Renationalisation, c'est-à-dire vraiment justement qu'il y ait des missions que l'État considère les choses autrement. Quand je dis renationalisation, c'est peut-être un peu, pourquoi pas SNCF, pourquoi pas on parlait des autoroutes, et pourquoi pas une autre manière de gérer les impôts.
Alors disons que bon, là c'est une perspective politique qui peut exister, puisqu'elle a existé dans un passé qui n'est pas si lointain que ça.
C'est ça.
Oui, en tout cas, mon organisation syndicale est de celles qui pensent que la mise en commun et en propriété de l'État des moyens de production et des services publics est de nature à avoir une équité sur l'ensemble du territoire. Le problème de la privatisation, c'est qu'on passe à la concurrence sauvage, et après, ça met en concurrence les différents échelons territoriaux, comme les régions, les départements. C'est ce qu'on est vraiment en train de faire actuellement, c'est-à-dire qu'on donne une autonomie de plus en plus grande à certaines collectivités, et il y aura les régions riches, les régions pauvres, et au final, plus d'unité territoriale sur le pays, quoi.
Donc effectivement, une désolidarisation finalement des territoires entre eux, quoi.
Voilà, oui, il y aura les territoires riches et les territoires moins riches.
Voilà.
Certains sont favorisés géographiquement, au niveau industriel, et on est en train de casser cette espèce d'unité depuis des années, quoi.
Depuis des années. D'accord. Donc vous souhaiteriez une renationalisation vous-même, en tant que vous personnellement, ou pas?
Alors, moi, je n'y serais politiquement pas du tout opposé. Je suis pas un militant politique, mais je l'exposerai pas ici. Mais effectivement, je pense qu'on va pas du tout dans le bon sens depuis une trentaine d'années. Et malheureusement, je crois pas que dans le cadre actuel, il y aura vraiment de solutions, quoi, parce que bon, on le voit bien, on est passé sous régime de l'Union européenne qui fait appliquer dans l'ensemble des pays un maximum de directives qui se transcrivent en loi, et on voit bien que c'est pas dans l'intérêt de la population, et j'ai l'impression que depuis quelques années, la population en est bien consciente, quoi. L'Union européenne et les gouvernements qui sont dedans et qui militent pour y rester, on parlait à une époque d'Europe sociale, on en est bien éloigné, quoi.
Je crois qu'on l'a jamais vu celle-là, hein, l'Europe sociale, excusez-moi. Donc vous êtes, on le rappelle, en grève, enfin en mouvement, donc vous-même, donc dans le centre donc des impôts de Carme, centre-ville, mais ce sont également les agents de Saint-Gaudens, de Muret, de Colomiers, du Mirail, de Rangueil ou de la cité administrative qui demeurent actuellement donc mobilisés en grève. Vous allez tout à l'heure être donc là dans quelques instants, vous allez aller à la manifestation?
Ah oui, bien sûr, on a appelé les collègues à y participer massivement, et donc en tant que secteur en lutte, on a négocié avec les unions départementales des différents syndicats pour avoir une bonne place dans la manifestation, et on espère que, puisque des préavis de grève sont déposés depuis le mois de décembre, donc qu'à un moment et rapidement, notre directeur général et notre directeur régional vont venir nous voir pour qu'on commence à discuter du fond et négocier sur nos revendications. Et pour le moment, à part des menaces de sanctions, On n'a pas eu d'autres communications de ces gens-là.
Oui, on peut jeter quand même un petit coup d'œil, un petit focus sur votre directeur, monsieur Hugues Perrin, qui non seulement donc ne vous soutient pas, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qui également fait quand même des menaces à demi-mot. Je reprends un petit tract que vous distribuez et qui et donc où ce monsieur Hugues Perrin, directeur donc des finances publiques 31, donc et qui dit. Par principe, j'applique la bienveillance, vous rajoutez SIC, mais je vais être conduit à envoyer un courrier à chacun des agents qui ont fait des blocages. Le briquet de grève est une atteinte au droit du travail et à la liberté individuelle. Je suis obligé d'écrire à chaque collègue qui commet un acte illégal, 3 points. Donc, on sent quand même que là, il n'y a guère qu'un rapport de force qui peut générer une écoute chez ce monsieur, entre autres.
Pour le moment, effectivement, on est dans la période du rapport de force. Donc, les fameux courriers dont il faisait mention dans notre rencontre de la semaine dernière ont été donnés depuis hier aux collègues qui sont sur les piquets de grève.
Oui.
Il applique la réglementation. Nous, on en prend acte, mais on est soutenu pour le moment par le vote des assemblées générales de chacun des sites qui est bloqué. Et on considère que notre lutte, elle est légitime. Donc, après, ce qu'on demande à Monsieur Perrin et à Monsieur Parent, qui est notre directeur général, c'est d'ouvrir les négociations, comme aussi le prévoit la légalité, puisqu'il parle de légalité. Quand il y a un mouvement de grève, il y a un préavis de 5 jours, durant lequel patron et ouvriers doivent se mettre de part et d'autre de la table et négocier pour essayer d'éviter la grève. En France, c'est malheureusement quelque chose qui ne s'applique que très rarement, et on en vient souvent à ces périodes de confrontation. On y est.
Tout à fait. Une confrontation, mais finalement, toute la notion du rapport de force, elle n'est pas toujours évidente, surtout que quand on parle de force, les forces armées ne sont pas du côté des manifestants, manifestantes. Une question toute simple. Vous, on le rappelle, vous êtes contrôleur principal des impôts, comment est-ce que d'autres personnes qui ne sont pas dans votre corps de métier pourraient venir affirmer leur solidarité avec votre lutte?
Alors, on a ouvert, pour parler de la solidarité financière, une caisse de grève.
Très bien.
Donc, les gens qui voudraient soutenir ce type de lutte peuvent aller sur les différents sites que vous avez cités pour faire un chèque à la caisse de grève, s'ils le souhaitent. Et après, je sais que sur le site de Muret, par exemple, ce matin, il y a un certain nombre de personnes en gilet jaune qui sont venues apporter leur soutien au piquet de grève. Et il y avait un Muret, donc une espèce de repas militant qui s'est fait ce midi. Toutes les jonctions sont bonnes à faire. Dans la manifestation, c'est pas le cas dans tous les départements, mais ici, il y a un appel de Gilets jaunes donc à participer à la manifestation aujourd'hui. Moi, je pense qu'il y a un certain nombre de jonctions possibles, parce que les revendications des Gilets jaunes se recoupent pour beaucoup. Celle de la CGT et l'Union départementale CGT 31, depuis le début, a bien compris que notre place était aux côtés de la population qui manifeste ses revendications.
Super. Alors une question pas vraiment piège, mais toute simple. Demain, si ce sont effectivement les enseignants, les lycéens qui sont en grève, est-ce que vous ou vos collègues, vous croyez qu'il y aura un mouvement de dire « on y va aussi, ça nous concerne, même si nos enfants sont grands, même si... »
Le problème est global. Aujourd'hui, certains parlent de grève générale. Ça n'est pas si simple. La grève générale, ça ne se décrète pas, on dit toujours. Mais je pense que à un moment, la colère qui s'est exprimée sur les ronds-points dans les manifestations du samedi, il est nécessaire qu'elle s'exprime dans les entreprises, les administrations. Seul un mouvement coordonné, un mouvement d'ensemble et sur la durée, après on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, pourra aboutir à obliger le gouvernement à vraiment ouvrir des négociations. Parce que on ne peut pas continuer comme ça. On le voit, les gens qui manifestent ces dernières semaines, ils expriment uniquement une chose simple, on n'arrive plus en travaillant à vivre. On survit. Donc, est-ce que c'est ça le but de l'humanité ? Quand l'association Oxfam dit qu'il y a une trentaine de personnes qui sont aussi riches que la moitié de la population la plus pauvre, ça pose question.
Tout à fait. Merci infiniment Jean-Marc Servel de CGT Finances Publiques 31. Donc, et puis rendez-vous donc dans les manifestations. À très vite.
C'est moi qui vous remercie. Merci. Au revoir.
Vous étiez sur Radio Canal Sud 92.2, c'était le magazine.